Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur ? C'est parti ! Aujourd'hui, je suis avec Benoît Vasseur. Benoît, bonjour.
Salut Benoît.
Ça me fait plaisir d'avoir un Benoît sur le podcast, je t'avoue.
qu'on vient d'embaucher le cinquième dans la boîte. Donc
Non, vous êtes combien ?
On est 93.
93, vous arrivez à avoir une proportion de 5 Benoît, 5% de Benoît dans la boîte.
Tu vois, à ce stade, c'est un critère de recrutement.
Remarque, moi, dans ma petite ESN, quand je l'avais encore, on était 4 employés, il y avait 2 Benoît dedans, dont moi.
Ouais, bah, tu vois.
On était à 40% de Benoît. Est-ce que tu peux te présenter, Benoît, pour ceux qui ne te connaîtraient pas ?
Yes, donc Benoît Vasseur, moi je suis le fondateur de The Tribe. Donc, bon, je pense que tes auditeurs connaissent parce que Aurel est passé il n'y a pas très longtemps sur le podcast. Nous, ce qu'on fait, c'est des produits. On les fait pour des clients qui nous les demandent. Alors parfois. Donc,
juste pour replacer, utiliser des bons gros mots qui tâchent, vous êtes une ESN, quoi.
On est. J'aime pas trop dire qu'on est une ESN. On est plutôt un truc entre l'agence, l'ESN. Enfin, on cherche à faire plus que des apps, on cherche à aider les gens qui tapent à la porte à réussir des business, quoi. Et du coup, pour ça, on fait des apps. Moi, j'aime bien dire que on fait de la résolution problème business. Ça peut être entendu un peu comme du bullshit, mais c'est la réalité de ce qu'on fait, quoi. Les gens viennent soit avec une idée, et ça, on aime bien parce que on a toute la possibilité de faire toute la conception qu'on veut, etc., repartir du problème, écouter les utilisateurs et tout. Et quand les gens arrivent avec un cahier des charges, là, c'est plus douloureux pour nous, mais on y arrive quand même.
Oh, je ne sais pas pour qui c'est le plus douloureux. En premier temps, peut-être pour vous, mais souvent, après, je remarque que c'est pour le client que c'est douloureux parce qu'il se rend compte qu'en fait, son cahier des charges, il peut déjà en enlever les trois quarts et revoir sa copie et avancer
en fait,
comme ça.
Que ça induit un cahier des charges, c'est que tu as la vision parfaite.
Ouais, c'est ça, ça fige un peu les choses à un moment donné.
Exactement. Et nous, ce qu'on aime bien faire, tu vois, y compris en design sprint, c'est apprendre aux clients à construire et à déconstruire sans arrêt pour pas se figer, quoi, pour rester vraiment dans un mindset d'apprentissage, quoi. Et ça, c'est difficile. Et c'est parfois, on passe par des phases où on est obligé un peu de forcer la frustration auprès des clients pour arriver dans ce mindset de construction-déconstruction et que ce soit fluide, quoi.
Sur votre modèle, vous êtes une équipe qui est externe et vous venez aider plutôt au forfait, plutôt à la régie. Comment vous bossez ?
On bosse sur le modèle du temps passé, donc plutôt un modèle régie. J'aime pas trop utiliser le terme régie parce que ça peut vouloir dire que tu envoies les bonhommes chez le client et c'est pas du tout notre mindset.
D'accord.
Et puis on a un process interne.
En plateau de service, donc c'est-à-dire que les gens restent chez vous et bossent pour le client à l'heure.
Ouais, c'est ça. C'est ça, okay. Avec un process bien décomposé. Donc, généralement, un client passe par la phase user research, design sprint, sprint zéro, qui est un truc qui permet de passer à l'action, et puis après, delivery en sprint qui sont orchestrés pour arriver à des objectifs business. Quoi.
Et alors, tout ça, c'est pas le sujet, c'était juste pour replacer un peu, et je pense que c'est important parce qu'on va parler de culture d'entreprise aujourd'hui. Pour moi, Benoît, vous rentrez complètement dans ce que j'appelle une ESN. En tout cas, tel que moi, je l'avais vécu et tel que fonctionnait mon ESN, c'est-à-dire qu'on travaillait aussi pour des clients, alors soit au forfait, soit à la régie. Et pareil, moi, j'ai toujours refusé de faire ce que j'appelle du prêt de main-d'œuvre, c'est-à-dire d'envoyer les gens chez les clients. On pouvait y aller de manière extrêmement ponctuelle, mais ce truc de placer des gens en régie et puis... en espérant qu'il restera le plus longtemps possible et surtout qu'il t'appelle le moins possible. C'était vraiment pas ce que j'avais, justement la culture que j'avais envie de créer dans ma boîte, donc je m'y retrouve là-dedans. Et j'aime bien cette idée qu'il peut y avoir des ESN où il fait bon travailler. J'ai la prétention de croire que ça a été notre cas. Et toi, le sujet que tu avais envie d'aborder, c'était le sujet de la culture d'entreprise. Et c'est un sujet que je trouve intéressant parce que... Je t'avais sollicité là en début d'épisode. Qu'est-ce qui fait que tu te poses ces questions ? Pourquoi tu te poses ces questions ? Et tu m'as dit, à un moment donné, c'est le bonheur des collaborateurs, quoi.
Ouais, en fait, c'est un peu lié à l'histoire. Hein. C'est que moi, je voulais pas monter une boîte de service, en fait. Au début de l'aventure de Tribe, dans la même boîte qui s'appelait pas The Tribe à l'époque, on a essayé de monter des SaaS avec Jérôme, mon associé. Et il se trouve qu'on a une période de 18 mois où, en fait, on a galéré, ça ne marchait pas. C'était quand même intéressant intellectuellement parce qu'on jumpait d'un sujet à l'autre et on allait vite au marché. Et de cette période-là, il reste une boîte qui fonctionne toujours et qui fait environ 2 millions et demi d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même c'est pas mal. Hein. C'est Allo Béton, ce qui est une marketplace de vente de béton. Ne me demande pas comment on est tombé dedans. On a tellement cherché qu'à la fin, on est allé chercher des niches. Tu vois. Mais à la fin de cette période-là, on était un peu fatigué. Et puis, tu vois, on revoyait des copains. Nous, on a fait tous les deux, Jérôme et moi, une école de dev, une école d'ingé. Et du coup, on voyait nos copains qui nous voyaient galérer, quoi. Et on avait l'impression d'être quand même plus heureux qu'eux, quoi. Moi, j'avais passé un week-end avec un pote qui bossait dans une SS2I dont je ne vais pas parler. Et qui voulait mettre en place, tu vois, c'est un mec qui est passionné par le front, qui voulait mettre en place l'équivalent de practice dans certaines ESN, et qui se heurtait à cette direction, quoi. Et qui en devenait vraiment un peu âpre, un peu amer, un peu et qui commençait à dober, quoi, alors que c'était pas lui. Tu vois, enfin, je reconnaissais pas le bonhomme que j'avais connu, quoi. Et du coup, ça m'a désolé. Et ça m'a vraiment donné envie de réinventer le modèle.
Moi, ça me parle complètement de deux angles, enfin par deux angles. D'abord, étant moi-même développeur, j'ai voulu créer l'espace dans lequel j'aurais aimé travailler. C'était un peu un réflexe, tu vois, de trucs comme ça. Et puis, il y a un autre enjeu, c'est que j'ai vite compris que des collaborateurs heureux, c'était le signe, c'était directement corrélé à une performance économique. Enfin voilà, à un moment donné, je me dis, ben, attends, si on gagne sur les deux tableaux, les gens sont contents, l'entreprise a de meilleures performances économiques, c'est juste de la mauvaise gestion que de ne pas se préoccuper du bien-être de ses collaborateurs, quoi.
Ouais, alors moi, tu vois, il y a un truc qui m'intéresse par-dessus tout. C'est pas que le bien-être, c'est de faire en sorte que, peut-être que je suis idéaliste, mais que c'est que les gens se trouvent, et quitte à ce qu'ils se barrent de la boîte, en fait, tu vois, enfin, ok, on accompagne un chemin, mais ça peut être un bout de chemin. Et donc, si à un moment donné, on a aidé quelqu'un à changer de trajectoire, et ben moi, je trouve ça hyper bien. Tu vois, on a vécu des situations où on aidait les gens à partir, dont une qui est super et qui est arrivée assez tôt dans la vie de l'entreprise. Hein. Un dev qui, à la machine à café, nous parlait de son produit qu'il codait à côté. Enfin voilà. Et à un moment, je lui ai dit, enfin, je l'ai interpellé, pourquoi tu ne montes pas ta boîte et tout. Et en fait, le sujet, c'est qu'il n'était pas financièrement à l'aise pour faire ça. Et puis à un moment, il a commencé à vraiment en parler beaucoup. Et donc, je l'ai invité à déjeuner. Je lui ai dit, tu sais quoi, on va t'aider. On va te filer un coup de main. On va commencer par te filer une journée par semaine. Et puis, on va te faire une rupture conventionnelle. Comme ça, tu auras le chômage. Et en fait, ça l'a mis en confiance. Et maintenant, tu vois, il vient une fois par semaine parce que nous, on est à Nantes. Ils travaillent tous les deux. Ils sont deux en remote et ils ont besoin d'un bureau. J'ai pris des parts dans sa boîte et tu vois, je suis content d'avoir accompagné ce type d'aventure, quoi. Je pense qu'on a un peu une responsabilité à faire en sorte que les gens se trouvent et qu'on les accompagne à exécuter la vision qu'ils ont pour eux-mêmes, quoi.
Je t'avoue que moi, c'est un truc que j'ai eu, c'est un déclic que j'ai eu sur la fin, ça. Pendant longtemps, j'étais plutôt dans un mode un peu, je sais pas, un peu étrange de les collaborateurs, ils vont rester longtemps dans la boîte, voire sous-entendu longtemps égale potentiellement toute le reste de leur vie professionnelle. Et il y avait vraiment une équipe très soudée, un fort esprit d'équipe et des gens qui étaient vraiment contents d'être là. Et c'est qu'à la fin, finalement, de l'aventure, que j'ai compris qu'en fait, une boîte, c'était aussi juste, ça pouvait être vu comme un lieu de passage, mais dans le sens positif, comme tu dis, tu vois, quelque chose qui vient t'accélérer, qui vient te faire grandir, voilà, c'est ça, qui vient te faire grandir. Et une de mes plus belles satisfactions, c'est de voir comment justement tous les collaborateurs ont grandi au cours de ces quelques années ensemble, quoi. Ça, c'est une vraie source de motivation en tout cas de satisfaction, parce qu'à l'époque, je sais pas si j'en étais vraiment conscient en le faisant. Comment est-ce que tu en es arrivé à prendre conscience de Justement, cette dimension de la culture de l'entreprise et de ce que tu voulais, ce que tu ne voulais pas, est-ce que tu es passé par un processus de l'écrire, comment tu as travaillé ça?
Ouais, bah en fait, il y a eu plusieurs phases, hein. La boîte a grandi et on grandit avec elle. Tu vois, il y a certaines choses dont on n'avait pas forcément conscience au début et qui se sont formalisées plus tard. Enfin, ce qui est sûr, c'est que la boîte est partie d'une révolte et que ce truc-là, on l'a gardé, quoi. Après, il y a eu différentes étapes. En dessous de 15, on était encore fragile, tu vois, que ce soit opérationnellement, commercialement et tout. Et donc, du coup, bah, c'était raisonnable d'être très, très focus sur notre process opérationnel, sur. Voilà. Quand on a passé les 15, on a commencé à se poser pas mal de questions et puis à
Ah
formaliser
oui,
le fait.
quel genre de question?
Bah, tu vois, des questions qui sont comment t'aides? Alors, tu vois, c'est pas forcément lié directement à comment t'aides les collaborateurs à trouver leur chemin, mais ça a été par étapes. Et à 15, on s'est posé la question de comment on faisait pour que les gens contribuent à la construction de la boîte. Si tu veux, on est parti de
Ah bah
présupposés.
c'est drôle, moi ça je l'ai intégré dès le début, moi ça.
Ouais, alors nous aussi, mais en dessous de 15, c'est
Qu'est-ce qui a
presque dans.
changé à 15, ouais?
Bah, en fait, tu retrouves un peu un niveau de confort qui te permet de te reposer ces questions-là, quoi. En dessous de 15, on n'était pas dans un niveau de confort qui nous permettait de. Enfin, si tu veux, on a mis en place des choses, hein, assez rapidement au bout de. Enfin, from day one, on a mis des trucs un peu original en place, du genre un lunch toutes les semaines qui permettait à chacun d'échanger sur des problématiques qu'il découvrait. Enfin, c'est presque du bon sens maintenant, mais c'est devenu culturel.
On parle de ça, c'était il y a combien de temps? Quand est-ce que vous avez
Il y a
lancé
6
ce
ans, on a
truc?
lancé il y a 6 ans.
Il y a 6 ans, d'accord. En tout cas, ce que j'entends, c'est qu'en dessous de 15, il y avait un côté plutôt faut produire, faut assurer le stack et avancer. Et qu'au-delà de 15, vous avez commencé à avoir un peu plus d'air, un peu plus d'espace pour commencer à vous poser des questions que vous ne vous posiez pas avant, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est ça, et on a structuré tranquillement, on a mis en place un système de squad qui, en plus du travail opérationnel, en fait, te permettait de, avec du temps qui était dédié, où tu étais sorti de la prod, en fait, de tacler des problèmes qui sont plus des problèmes de build, quoi, de construction de la boîte. C'était des trucs très concrets, hein. C'était comment on refond le process de recrutement, c'était comment. Tu participes à la rédaction d'articles pour faire un peu de marketing, c'est comment tu vois, on organise bah, des conférences, comment on organise le salon du Web Today. Et si tu veux, en dessous de 15, il n'y avait que des devs. Enfin, tu vois, moi je suis dev de formation avec mon associé également. Et on avait un peu cette idée au démarrage de faire une boîte avec que des devs, quoi. Et puis, il y
Ouais, à
a.
un moment donné, tu te rends compte que les devs, ils aiment dev, quoi. La plupart des devs aiment dev avant tout.
Ouais, et puis c'est, si tu veux, c'était un peu idéologique, quoi, notre truc au démarrage. Et donc, ouais, on s'est débloqué aussi psychologiquement, quoi.
J'entends. Et c'était quoi le palier suivant après 15? Parce que moi, du coup, je me suis arrêté à 4.
Ok.
Et effectivement, je sentais bien, tu vois, j'étais au moment où je sentais que si je voulais aller un cran plus loin, il fallait clairement un relais sur la partie commerce. Je ne pouvais plus le faire tout seul. Et là où j'ai eu un peu un blocage, il était double. Enfin, il était double. Ouais. D'abord, il fallait trouver la bonne personne. Et ça, j'avais cherché un peu, c'était vraiment pas évident. Et puis le deuxième, c'était quand j'ai réalisé qu'en fait, pour pouvoir rémunérer ce commercial-là, il fallait en gros doubler l'équipe. Il fallait passer de 4 à 8. Et qu'au final, j'allais augmenter le chiffre d'affaires, j'allais augmenter les risques. Mais par contre, j'allais certainement pas augmenter mon résultat, en fait. La rentabilité, ça allait être la même, voire j'allais passer par une belle passe négative avant de retrouver des couleurs. Et ça, c'est un saut que j'ai pas osé franchir. J'ai eu peur.
Ouais, je comprends. Je comprends. Bah, si tu veux, à partir de 15, on a pu staffer un commercial. Et ça a été.
Ah ouais, pas avant 15? Ah ouais.
En fait, si tu veux, c'était moi. Mais j'étais plus dev et je m'en étais pas forcément rendu compte, quoi. Non, mais je passais mon temps à faire du commerce, etc. Et tu vois, il y a un truc qu'on a voulu faire
Ouais,
au
mais c'est tellement
démarrage.
plus logique parce que 15, c'est quoi? C'est à peu près 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc
Ouais, c'est ça.
c'est à peu près là que tu. Ouais, c'est à partir de là que tu as eu assez d'assises pour te dire, OK, maintenant je peux prendre quelqu'un pour m'aider sur la partie commerciale, quoi.
Ouais, puis un truc qui était important pour moi, c'était de dire que je voulais que le commerce soit hyper proche de la prod. Donc on n'a pas pris un commercial directement, on a pris un PM, enfin un business dev, quoi. Notre offre, c'était PM business dev, c'était les deux en même temps. Et donc ça, on l'a fait jusqu'à 30.
Oui.
Et ça, c'était le palier d'après. Ouais.
Et donc, en fait, le PM Biznev, il allait du coup faire le product manager chez le client qu'il gagnait, quoi, en gros.
Ouais, alors,
ou pas forcément.
Le PM travaillait depuis chez nous, mais ça revient à ça, en fait. Il travaillait sur la vision produit. Donc ça, on parle de quand on était 30. Hein. Et puis, finalement, l'avant-vente, c'était presque des premiers ateliers qu'on fait aujourd'hui payer. Mais ouais, c'était un peu notre approche. Ça a été celle de dire qu'un client qui passe la porte, on essaie d'abord de comprendre le problème. Et pour ça, on passe par... tu vois, une série d'ateliers qui fait que on a bien compris et que on arrive à faire en sorte que le client se détache de la vision toute faite qu'il a, quoi. On se ramène à un partage commun des objectifs et de ce qui ferait qu'on arrive à craquer le problème.
Et donc après à 30, c'est quoi, ça a été quoi le palier suivant et le challenge du palier suivant?
Bah, à 30, on a commencé à pas mal grossir et du coup à formaliser un certain nombre de choses. Notamment, c'est là où on a remis en jeu les valeurs de la boîte que nous, on avait marquées sur le papier avec Jérôme. Donc, tu vois, on a fait ça, on s'est fait accompagner par une boîte qui s'appelle FlyGenest qui nous a pas mal aidé. Et du coup, ça nous a permis de, par un process collaboratif assez bottom-up, tu vois, de les retravailler et de les partager. Et ça nous a permis de s'aligner pour aller chercher le palier d'après. Et puis, on a transformé notre système de squad, là, dont je te parlais tout à l'heure, en un process avec des séminaires tous les 6 mois, une roadmap formulée sous forme de résultats, en fait, un peu comme la méthode des OKR. Là. Et donc, avec une revue toutes les 2 semaines de la roadmap, avec, enfin, tu vois, pour faire avancer ce qui n'est pas du run, c'est-à-dire le build, quoi, la construction de la boîte de demain. Et donc ça nous a fait franchir un palier. C'est là aussi où on a commencé à staffer des fonctions support supplémentaires. Donc on a pris notre premier recruteur. Ouais, donc ça a été un palier vraiment important. Et un palier qui n'a pas été hyper évident parce que tu vois, c'est le moment aussi où les premières personnes que tu as embauchées se reposent des questions.
Et oui, tu arrives à 3-4 ans, là, donc tu as fait un cycle, donc tu peux avoir des gens qui vont avoir envie d'aller voir ailleurs.
Oui, finalement, on n'en a pas eu tant que ça, on voit qu'ils sont partis, donc ça c'est plutôt chouette. Mais tu vois, si on n'avait pas fait ce réalignement sur les valeurs, la roadmap, le projet commun, je pense que ça aurait été assez compliqué.
Et aujourd'hui, c'est quoi les challenges, tu dirais alors?
Bah, du coup, là, on est dans l'étape encore après, donc tu vois, on est presque une centaine. Donc là, on a structuré les choses pour que notre boîte, elle grossisse en restant sympa. Donc, un des postulats qu'on a eu assez vite, c'est de dire qu'on allait créer des tribus, des entités, tu vois, de 60 personnes maximum. Et donc, on prend le prétexte d'aller conquérir des villes pour faire ça. Mais l'idée vraiment qui est derrière, c'est de créer des boîtes à taille humaine, en fait. Hein. Donc, là, on est à Nantes, Paris, il y a 20 personnes. On l'a lancé il y a un an, un peu plus d'un an. Et puis, on vient de lancer Lille. C'est en tout démarrage. Et puis The Train Mobile, qui est une entité 100% remote. Donc, tu vois, on a 4 tribus de moins de 60 personnes. Hein. C'est, Nantes est presque à maturité, arrive presque à cette taille-là. Et donc,
à 60, tu fais quoi? Tu dis non, je ne recrute plus?
Ouais, sur une ville, c'est exactement ce qu'on fait. Ouais.
Et donc, si tu as du client qui arrive, c'est aller voir la tribe d'à côté, quoi. Aller voir avec la tribe de Paris ou de Lille.
Exactement. Ok. Et du coup, là, notre enjeu en ce moment, ça fait un an qu'on fonctionne comme ça, un peu plus d'un an qu'on a créé Paris. Donc, notre enjeu, c'est de faire en sorte que, entre tribus, on arrive à bien communiquer, qu'on arrive à fonctionner sous forme de partenariat, mais en même temps, qu'on continue à s'améliorer et à partager nos bonnes pratiques.
Donc, oui, parce que tu as un risque de divergence, là. Si jamais tu donnes beaucoup d'autonomie à ces entités, tu as un risque que chacune. Il faut trouver l'équilibre entre garder tout le monde aligné, mais en même temps laisser de l'autonomie pour que les gens s'adaptent à leur spécificité.
Ouais, exactement. Bah, tu mets le doigt sur l'enjeu principal, hein, d'un fonctionnement comme ça. C'est celui de laisser le plus d'autonomie possible parce que c'est ça qui est motivant. Enfin, tu vois, nous, on est une boîte qui se construit un peu organiquement avec les gens qui sont là. C'est-à-dire qu'on veut laisser beaucoup d'autonomie au bureau. Et moi, ma vision, c'est que les bureaux vont se singulariser soit sur des secteurs d'activité, soit sur des technos, soit sur des problèmes donnés. Tu vois, typiquement, la tribu de Lille va spécialiser sur l'automatisation des process internes. c'est assez différent en fait du product, de ce qu'on fait. Et moi, je trouve ça assez cool parce que c'est la vision du chef de bureau. Et du coup, il va faire pas mal de no-code pour faire ça, sachant que, tu vois, jusqu'à présent, on n'en faisait pas beaucoup. Donc, on faisait plutôt du low-code parce qu'on est une boîte à la base de tech, hein. Mais je trouve ça super, en fait, de dire que bah, les tribus, elles se singularisent. Et après, en fait, bah, ton enjeu, c'est de faire en sorte que tout le monde se parle, que tu crées des groupes de travail sur des sujets très opérationnels pour que bah, tu aies de la porosité entre les bureaux et qu'on continue à apprendre tous ensemble. Bah, et que tu vois, la différence, elle soit plutôt l'occasion d'apprendre des nouvelles choses et ensuite de se les partager, de se les répercuter, etc. Donc, ça, on a pas mal réfléchi à comment structurer ça. Et donc, on fait ça à la fois avec des design sprints internes, tu vois, qui nous permettent de tacler des sujets de méthode interne, des sujets tu vois, de culture aussi. Et donc, ça, c'est, ça se construit. On n'a pas encore trouvé le fonctionnement parfait, mais je pense que c'est notre objectif sur 2022, tu vois, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on arrive à prouver le modèle des tribus qui collaborent entre elles bah, sur des partenariats sur l'opérationnel et que sur tout ce qui est process métier, etc., on arrive à devenir une organisation qui apprend toute seule et qui bah, se communique les avancées qui sont appris dans telle ou telle tribu.
Et toi, après, tu peux aller jouer au golf.
J'en suis pas encore là.
C'est quoi les challenges, hein? C'est quoi les challenges d'un patron d'une boîte comme ça qui a un beau développement, qui fait ça de manière, j'entends quelque chose d'assez dynamique et en même temps d'assez posé finalement. C'est quoi les challenges pour toi individuellement dans ce navire-là?
Bah moi, si tu veux, je passe mon temps opérationnel à coacher les chefs de tribu et ça, bah, j'y trouve vachement de satisfaction personnelle parce que on se partage des trucs qui sont à la fois philosophiques sur la culture de la boîte et tout. On se partage des moments qui sont pas forcément faciles. Les leaders, je pense, ont par nature pas mal de questions qui se prennent dans la tronche et donc du coup, bah, ça, j'accompagne ça et pour moi, c'est une richesse de malade, hein. Je fais des one-one. Je fais une heure par semaine de one-one avec chaque chef de tribu. Donc, j'en ai quatre. Tu vois, ça me prend un peu de temps. Et puis, à côté de ça, on a des questions sur des problèmes que les chefs de tribu me posent. Et puis, moi, j'accompagne aussi pas mal les chefs de pôle de la tribu support parce qu'on a une tribu support qui fait environ 10 personnes, tu vois, qui compte trois pôles principaux. Hein, elle est quatre. Donc, tu as la tech. Donc, ça, c'est plutôt Jérôme, mon associé, qui gère ça, mais j'interagis pas mal avec lui là-dessus. Tech produit, quoi. Donc, tu as un pôle de 5 personnes qui sont au recrutement et qui met en place pas mal de choses en lead management, tu sais, en démarche d'amélioration continue. Donc, j'ai un pôle finance et puis un pôle marketing. Et puis, tu vois, moi aussi, je suis vachement actif sur le commerce. Et donc, du coup, j'y passe du temps, mais plutôt avec les gens qui sont à l'intérieur des tribus. Tu vois, on n'a pas centralisé le commerce, parce que pour nous, c'était hyper important que chaque tribu soit responsable de son PNL et donc du commerce.
Ouais, chaque responsable de tribu est quelque part un peu un mini-entrepreneur.
Ouais,
un entrepreneur de son responsable de son PNL. Donc, pour les auditeurs, le PNL, c'est le... C'est le compte de résultat, on va dire, en tout cas, ça. Comme si c'était une mini-entreprise dans l'entreprise, en fait.
Exactement. Et tu vois, la vision qu'on a sur des structures qui sont grosses comme celle de Nantes, c'est aussi de splitter en équipes de 8 personnes et de faire en sorte que bah, ces équipes, pareil, elles soient responsables à terme de leur PNL. Enfin, ce qui nous anime, en fait, tu vois, tout à l'heure, on parlait de la raison d'être de The Tribe, hein, qui est finalement de faire en sorte que les gens soient épanouis, se trouvent, etc. Ben, en fait, un des partis pris qu'on a eu, c'est de se dire que c'était une bonne manière, en fait, de faire en sorte que les gens soient responsabilisés et que les petites équipes, en fait, ce soient comme des entreprises. Si tu veux, ça sort les gens de leur zone de confort, ça les oblige à devenir autonomes sur plein de sujets. Et du coup,
mais à 8, c'est dur d'avoir... Ouais, on remarque, tu peux peut-être leur proposer des fonctions support. Parce que c'est dur de gérer des choses comme le marketing, la com, le commerce. Tu peux arriver si tu as de l'inbound, mais si jamais c'est à toi d'aller le chercher, à 8, c'est un peu... Ouais, remarque, ça se fait, je l'ai fait à 4, donc ça se fait à 8.
Ouais, alors les groupes de 8 ont des commerciaux qui sont à disposition et donc tu vois le commerce c'est un commun partagé et les équipes vont puiser dedans, quoi. Donc les
D'accord, ok.
commerciaux restent quand même tu vois, à sourcer des
Mutualiser.
projets, à faire le premier contact, etc. Et après bah, tu as une passation au commerce en avant-vente qui se fait avec les team leaders, quoi.
Ok. Ça me fait penser un petit peu au modèle de Favi où ils avaient créé dans l'usine des mini-usines et où ils avaient responsabilisé chaque équipe, justement, de moins de 10, quoi, en gros,
Bah, tu vois,
pour être
Favi, ça fait
centré
partie
sur un client, quoi.
des sources d'inspiration. Enfin, bon, il y a un bouquin qui m'a beaucoup marqué, hein, c'est un Reinventing Organizations. Enfin, j'en avais lu pas mal de ce type-là, mais celui-là, je pense, est un cran plus loin. Enfin, je sais pas si tu l'as lu.
Je sais plus, je crois pas.
C'est Frédéric Laloux qui a écrit ça.
Ah voilà, je me disais le nom me dit quelque chose, il est dans ma to purchase list.
Ok. Top. Ouais, bah, c'est vraiment un bouquin que je conseille qui, moi, m'a fait prendre conscience de pas mal de choses qu'on essayait de mettre en place, qu'on n'avait pas forcément verbalisé. Et donc, tu as cette idée de petite équipe, en fait, autonome, qui se responsabilise et qui fait équipe. C'est un truc qui est vachement important.
Bah écoute, Benoît, je te propose que ce soit le mot de la fin. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur ce que tu fais, sur ta boîte, ils peuvent venir où?
Avec plaisir.
Ils peuvent venir où?
Ah, pardon. Ils peuvent me contacter sur LinkedIn. Je suis assez dispo. Et puis, ils peuvent regarder notre site internet, thetribe.io.
Point.io.
Thetribe.io. Ouais.
Ça marche. Merci, Benoît.
Je t'en prie, salut Benoît.
Ça me fait bizarre d'avoir cette espèce d'écho.
Ouais,
Quant à toi, cher auditeur, ben j'espère que tu as apprécié cet épisode. Si tu as envie de nous rejoindre, rejoins la communauté des artisans développeurs sur artisandéveloppeurs.fr. Je te remercie et je te dis à bientôt.